à la programmation musicale.
Les humeurs gourmandes de Carlo.
Bon, les images ont beaucoup circulé ces dernières semaines, Carlo, avec l'ouverture d'une seconde ferme à cochons XXXL en Chine. C'est colossal et on va un petit peu se poser des questions d'utilité publique sur tout cela.
Mais oui, dites, permettez-moi de citer une citation qui a dit, je cite, « Ils ont un très bel élevage de 20 000 porcs. Ces bêtes demandent énormément de soins, monsieur Ramirez. Faut leur gratter la couenne tous les jours et croyez-moi, dans ces métiers-là, on n'a pas facilement son dimanche. »
Monsieur Ramirez, ça me rappelle Papy fait la rédition.
Mais oui, c'était Bernadette Bourdelle, alias plutôt Aka Dominique Lavanant dans Papy fait la rédition. Bon, chers auditeurs, chères auditrices, cher Laure Ducos, juste une précision. Je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas agriculteur, je ne suis pas ministre de l'économie, ni belge, ni chinois. Je ne suis pas économiste expert des mouvements de porcs vivants ou décédés à travers le monde, entiers ou par morceaux, en long et en large à travers, dans le monde, et ou bien les porcs juste répartis vers le haut sur plus de 20 étages. Alors, je ne suis en revanche consommateur, mais je ne suis pas consommateur chinois. Mais je suis consommateur de porcs de filière qualité, de porc, parfois, quand je m'octroie un bonus, du porc qui a mangé des glands. Pas le bonus, c'est le porc qui mange des glands. De porc qui vient d'Ardennes, de porc noir de Bigorre, de porc ibérique, de porc de Piétrin, de porc mexicain à l'insu de mon plein gré, et de boyaux de porc belge qui a transité par la Chine pour emballer mon boudin belge, parce que chez nous, on n'aime plus, on n'a plus le savoir-faire pour travailler la peau de boudin. Mais je ne suis pas décideur chinois et je ne suis pas consommateur chinois. Le consommateur chinois, il en manquait de cochons. Oui, la Chine, bon d'accord, ils sont nombreux, mangent 40% des porcs du monde. Mais le modèle change un peu, la consommation de poulet en Chine est en train d'augmenter au détriment du porc. Ouf, on est sauvé par le poulet. Et oui, on était court en cochon en Chine, vu qu'ils n'avaient pas assez bien réussi, ou plutôt ils avaient plutôt, excusez-moi, mais les Chinois avaient vraiment fait un carton plein en importation de peste porcine africaine. Ça leur a valu d'être champions en importation de cochons, du coup, parce qu'ils n'avaient plus leurs cochons, donc ils ont dû importer. Et ils se sont dit, puisqu'on est obligé de bouffer les cochons d'ailleurs, eh bien on va vendre des bagnoles électriques aux autres. Non, en fait, ça, j'ai pas vérifié. En fait, ils ont fait comme nous.
Ils se sont posés chez nous, quoi.
Oui. Ils se sont posés deux secondes en sautant comme des cabris, les Chinois, en disant souveraineté alimentaire, souveraineté alimentaire. Et ils ont fait des immeubles à étages pour y mettre des cochons. Le problème de cette usine à cochons, de ces usines, comme toujours, c'est d'abord, c'est l'impact. C'est l'image.
26 étages.
Bon, 26.
Ça fait beaucoup. 650 000 cochons, et ça vous devrait monter à 1,2 million.
On a envie de dire les villages chinois qui font des usines à cochons entassées sur plusieurs étages. Alors que nous, en Europe, nous, on a bien lu les rapports du GIEC. Alors, on aime les cochons d'amour, sans nitrite, sans phosphate, et on leur gratte la couenne à trois doigts tous les matins.
C'est ça, oui.
Sophie, ce matin, vous qui aimez les expressions classiques et fortes de notre belle langue française, vous vous demandiez, la Chine n'a-t-elle pas ouverte la boîte de Pandore en industrialisant à ce point le cochon. En fait, les Chinois, ils n'ont pas ouvert la boîte de Pandore. Ils l'ont fermée.
Comment ça ?
Eh bien oui, la boîte de Pandore, ils l'ont fermée. En Chine, on n'aime pas les virus, c'est connu.
Dans ce sens-là, oui, ça c'est sûr.
On n'aime pas les virus. On a tendance à bien les propager toutefois. Alors on confine. On confine les gens, ça nous aussi on l'a fait. Et on confine les porcs. Et ça nous aussi on le fait. Sauf que les Chinois, ils sont efficaces. Et nos histoires de vierges effarouchées, ils s'en foutent. Mais vous savez quoi, Sophie, pour faire mon belge là, nous aussi on s'en fout un peu en faisant semblant de ne pas s'en foutre. Qui a dit une grande victoire pour nos agriculteurs? Peu importe qui l'a dit, parce qu'on est en période de prudence vu qu'on va bientôt avoir des élections, donc soyons prudents. Et à propos de quoi le qui l'a dit, victoire pour nos agriculteurs? À propos de la fin de l'embargo. L'embargo de quoi? L'embargo du cochon belge vers la Chine. Mais attention, on ne va pas envoyer en Chine du cochon vivant qui va souffrir. On leur envoie des têtes, des oreilles et autres, je cite, spécialités. Cela dit, je comprends. Dans le cochon, perso, j'aime tout, même l'oreille. C'est bon l'oreille, le pied aussi. J'adore le pied de porc. En vrai, vous connaissez, Sophie, le pied de porc à la Sainte-Ménéhould. Je ne vous fais pas la recette, mais c'est vachement bon.
Ouais, okay.
Et là aussi, franchement, je ne stigmatise rien, ni les Belges, ni les Chinois. J'essaye juste d'observer, et même j'essaye parfois de comprendre. Ça fait longtemps que l'élevage, on le dit souvent ici, et Laure le dira beaucoup mieux que nous, l'élevage n'a rien à voir avec la nature. Et c'est normal, c'est de l'élevage ou du dressage. La nature n'a pas dessiné le caniche en disant « Tu chasseras le canard, Gaston. Gaston, c'est mon caniche. » Non, c'est l'homme qui a façonné le caniche, au fur et à mesure des générations, en le faisant travailler, qu'il apprenne à chasser le canard. Pareil pour le cochon. Non pas que le cochon chasse le canard, mais le cochon développe des côtes de cochon pour que nous mangions des côtes de cochon. Le problème n'est pas la Chine. Le problème, c'est que nous voulons le cochon et l'argent de la truie. Pensons-y. Quand nous mettrons une tranche de jambon dans notre sandwich du déjeuner à midi, comment s'appelait ce pauvre cochon qui de sa viande me nourrit ? Il s'appelait Légion. Car ils étaient plusieurs. Oui, plusieurs cochons dans un jambon. Mais pour la suite, je vous renvoie pour une fois aux Saintes Écritures, aux évangiles de Luc et Marc, surtout Marc.
Petite réaction de notre invité du jour, Laure Ducos. Je rappelle que vous êtes l'autrice de cet ouvrage. On ne peut plus d'actualité. Les frites viennent des patates dans les coulisses de notre alimentation et de l'agro-industrie. Petite réaction à ce qui vient d'être dit. Effectivement, le gigantisme de ce projet chinois peut interloquer, mettre en colère, mais en fait, l'or, on ne fait pas mieux en Europe à plus petite échelle.
Exactement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Français, Françaises ou de Belges qui pensent que finalement le pire est à l'étranger. Et effectivement, il y a beaucoup d'images, de vidéos, de films qui tournent sur cet hôtel à port, comme on l'appelle en Chine, ou sur, plus courant, les feedlots, ce qu'on appelle ces espèces d'immenses fermes industrielles en Argentine, aux États-Unis, ailleurs. Donc on est toujours en train de dire c'est pire ailleurs. Et en fait, ça dépend de quoi est-ce qu'on parle. Si on parle de taille, effectivement, en Europe, les élevages sont quand même bien plus petits, en particulier dans des pays comme la Belgique ou la France. Par contre, si on parle des pratiques, il y a des choses qui sont mieux, mais ça reste des pratiques très intensives.
Oui, effectivement, ça on ne l'a peut-être pas dit, mais Pékin a vraiment érigé la sécurité alimentaire parmi les priorités et compte ses... En fait, ce sont des fermes méga intelligentes. Au niveau sanitaire, il n'y a pas une crasse, il n'y a pas un microbe, ce qui n'est peut-être pas le cas dans nos élevages industriels européens.
Oui, alors il faut quand même savoir qu'en grâce à l'Europe notamment et grâce aux normes nationales de plusieurs pays, il y a quand même des normes d'hygiène très strictes dans nos pays.
Oui, mais là, le nettoyage, il est H24 sur les literies, enfin qui n'en sont plus, mais sur les litières des cochons, c'est nettoyage non-stop, quoi. Il n'y a pas une déjection.
Bien sûr, mais quand je parlais de pratique, il y a la question de l'hygiène, mais il y a aussi la question du traitement animal, question du bien-être ou de la maltraitance animale. Il faut savoir qu'il y a des milliers d'agriculteurs, des milliers d'éleveurs ou d'éleveuses qui font beaucoup d'efforts en Europe comme partout dans le monde. Par contre, il se trouve qu'on a une concentration de l'agro-industrie aujourd'hui qui est très forte. C'est-à-dire que il y a la majorité des animaux sont concentrés dans une poignée de fermes. C'est-à-dire que finalement, plus de la moitié des porcs et des poulets sont concentrés dans 1% des fermes, si je prends un chiffre français. C'est-à-dire que finalement, quand on parle en nombre d'agriculteurs, la majorité font beaucoup d'efforts et traitent bien leurs animaux. Mais si on parle en termes de nombre d'animaux, du fait de cette concentration, en fait, on se rend compte qu'il y a il y a une très forte intensité dans ces plus grands élevages qui concentrent le plus d'animaux et dans certains cas, pas toujours, mais malheureusement souvent, des problèmes de maltraitance animale. Et j'aimerais que ce soit des cas isolés, mais les vidéos notamment de l'association L214 ont beaucoup montré ça.
En Belgique, notre équivalent, je vous interromps, Laure, nous avons Gaïa en Belgique qui fait ce même travail qui est très utile. Leurs méthodes parfois sont contestables, mais le travail, l'output final est très utile.
C'est ça. Et le dernier point, c'est la question de l'impact environnemental. Parce que je veux bien croire que dans cette ferme usine à porc, cet hôtel à porc en Chine, par exemple, c'est très propre. Mais qu'est-ce qu'ils font de leur lisier ? Qu'est-ce qu'ils font des déjections animales ? Et en fait, on a le même problème en Europe, c'est-à-dire qu'on a des fermes usines, donc des exploitations industrielles avec beaucoup d'animaux, où en fait, on ne sait plus quoi faire du lisier, on ne sait plus quoi faire des excréments tellement il y en a. À tel point qu'il y a des pays où on les exporte. Par exemple, les Pays-Bas exportent une partie de leur lisier vers l'Allemagne en camion. Donc on est vraiment arrivé à un système qui marche sur la tête.
Bon, votre présence aujourd'hui, Laure Ducos, fait vraiment résonne, puisque c'est en ce moment que se tient, et on en a fait mention il y a quelques minutes dans notre journal de 11h, le Salon de l'agriculture se tient en ce moment à Paris. La colère monte, mais ça ne semble pas se calmer. Emmanuel Macron a appelé au calme. Il y a eu quelques annonces qui ont été faites il y a quelques heures afin de calmer un petit peu la tension. Cette colère, aujourd'hui, elle dit beaucoup. Elle dit que ce système a perdu la tête. Et ce système, vous l'avez analysé dans cet ouvrage, hein, les frites viennent des patates dans les coulisses de notre alimentation. On parlait il y a un instant des élevages porcins. On a quand même le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une frange de cette agriculture, de ces élevages qui ne souffrent pas trop, les gros mastodontes, et puis après, il y a tous les autres, les laissés pour compte. Est-ce que je résume assez bien la situation en 2024, Laure ?
Oui, alors c'est un tout petit peu plus complexe que ça. C'est un sujet qui est éminemment sensible et donc j'aimerais apporter un tout petit peu de nuance parce que quand on parle de, par exemple, d'aller bien en termes monétaires, oui, effectivement, il y a une. Si on regarde les subventions de la politique agricole commune, elles vont. En fait, la majorité des aides va à une minorité d'exploitations agricoles. Donc, d'un point de vue financier, oui, il y a une minorité qui s'en sort plutôt bien, voire très très bien, et une majorité des agriculteurs qui s'en sortent beaucoup moins bien. Par contre, si on parle du bien-être humain, par exemple.
Ah, oui.
Et ça concerne aussi toute la chaîne des travailleurs. On parle beaucoup des exploitations agricoles, mais il y a aussi tous les travailleurs de la transformation, de la distribution, donc qui sont très invisibilisés. Et en fait, quand on parle de bien-être humain, il peut y avoir de très gros problèmes. Et il y a c'est pas pour rien qu'en fait, les taux de suicide des agriculteurs sont aussi élevés. Et quand on parle des taux de suicide des agriculteurs, ce ne sont pas les salariés agricoles, ce sont les chefs d'exploitation, principalement des hommes qui sont très isolés. Et d'ailleurs, il y a des ONG qui reçoivent régulièrement des témoignages de dirigeants qui en fait sont retrouvés endettés dans des modèles intenables, qui sont à la tête d'exploitations industrielles, hein, de 20 000, 30 000, 40 000 poulets ou de milliers de lapins par exemple, et qui en fait n'en peuvent plus et ne savent pas comment s'en sortir parce qu'ils sont endettés, ils ont été poussés à bout dans un modèle financier et agro-industriel qui en fait ne sont pas capables de tenir. Et j'aimerais juste peut-être donner une image pour bien comprendre la situation. C'est qu'aujourd'hui, il y a des agriculteurs, des agricultrices qui ont des exploitations trois fois plus grandes que leurs grands-parents, qui travaillent trois fois plus, qui sont trois fois plus intensifs et qui ne gagnent pas plus.
Alors justement, on aura un petit témoignage dans un court instant. On va faire une petite pause histoire de retrouver un peu ses esprits et de commencer peut-être à réfléchir. Jamiroquai, Emergency on Planet Earth, c'est un peu raconté. Et juste après, on plonge dans le fond du sujet. On va essayer en tout cas.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.